Ah mon Dieu, merci.
All right. OK. Admettons que j'essaie d'arriver vers une conclusion pour qu'on puisse finir ça à un moment donné puis continuer la discussion vers là où je m'en vais. Tantôt, je disais, on allait parler de trois formes d'organisation relativement courantes. Le parti politique ou l'organisation révolutionnaire, le syndicat ou l'organisation de mouvement social, si on veut, ou la coopérative ou l'OSBL, etc. À partir des différentes informations, là, des discussions qu'on a eues jusqu'à date, comment convaincre les gens, etc., on peut regarder un peu le rôle que chacun de ces organisations-là, ou surtout leur objectif qui est rattaché, comment les stratégies autour de ces fronts-là ont des forces de limite respectives, finalement, puis comment ils peuvent avoir une certaine complémentarité. Ça m'amène aussi avec le point que je disais, on est meilleur là, quand on s'organise là où on est, puis il y a des limites à ce qu'on peut faire personnellement. C'est-à-dire, des fois, on va choisir comme une façon de lutter, finalement. Des fois, on est persuadé que c'est peut-être la seule ou la meilleure façon de lutter, mais ultimement, il faut se réfléchir dans un genre d'écosystème, puis que des fois, le travail qu'on fait à quelque part, finalement, il va aider le travail que d'autres personnes vont faire sans qu'on le sache exactement, puis vice-versa, la personne qu'une autre personne va faire va nous aider. Si on commence par, notons, la question de développer des espaces économiques autonomes, si on veut, ou des organisations comme des coopératives, des OBNL, toute la question de l'économie sociale en tant que telle, tu sais. Ça a des avantages en termes de, par exemple, c'est quelque chose qui permet de faire l'expérience de pratiques différentes. T'sais. Si on n'avait pas de place qui fonctionnait avec, admettons, des genres de communautés autogérées, on ne pourrait pas avoir des exemples dans lesquels on dit « OK, c'est effectivement possible que les travailleurs et travailleuses décident ensemble, collectivement et démocratiquement, la façon dont leur travail va fonctionner. Cette façon-là de travailler peut fonctionner. » Puis d'ailleurs, c'est des expérimentations qui permettent aussi de développer des nouvelles pratiques, au sens où ces gens-là, par leur expérience, rencontrent des limites. Ils vont faire comme « Ah ouais, quand on fait ça, ça marche pas pantoute » ou vont avoir des conflits, vont réussir à les surmonter, vont apprendre de ça, puis ils peuvent transmettre cette expérience-là par la suite parce que, ultimement, si on veut planifier notre économie démocratiquement et blablabla, ben il faut qu'à la base, on ait des expériences sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire, tu sais, voici des trucs concrets qu'on va pouvoir faire, voici des lacunes qu'on sait qui vont arriver éventuellement, voici des façons de surmonter que d'autres personnes ont faites avant nous. Puis au fur et à mesure que croît ce secteur-là, au fur et à mesure, on peut avoir des expériences diverses, riches, sur lesquelles on peut se baser, tu sais. Ceci dit, en ce moment, une des limites de ce type de stratégie-là, c'est qu'il essaie de survivre dans un marché qui est capitaliste. Puis ça impose des contraintes au sens où ils sont en compétition finalement avec des entreprises capitalistes qui, eux, se bordent beaucoup moins de normes environnementales, de respectabilité sociale, d'inclusion de la communauté et compagnie, puis vont pas hésiter à délocaliser de la production en Chine, etc., puis vont faire des concurrences féroces en termes de prix, etc., à ces endroits-là. Puis d'ailleurs, la plupart de nos initiatives de ce genre-là, comme on possède peu de capitaux, bien souvent, on s'en sert dans des marchés ou dans des sections du marché, finalement, qui requiert peu d'investissement en capitaux upfront. Fait que souvent, ça va être des cafés, des choses dans l'industrie du service, des affaires qui sont relativement accessibles, des restaurants, une petite librairie, des affaires du genre. Et on va rarement voir, je sais pas moi, une manufacture de trains en coopérative, parce que ça demande des investissements importants en termes de capitaux, puis en termes de savoir qu'on n'est pas capable de mettre de l'avant, puis c'est un marché beaucoup plus difficile d'accès parce qu'il y a des barrières à l'accès importantes que d'ailleurs les propriétaires de capitaux qui possèdent ces entreprises-là vont défendre bec et ongles. Et éventuellement, face à la concurrence et à la compétition du marché, ces entreprises-là, quand elles sont minoritaires ou s'ils ne sont pas soutenues, vont finir par se transformer pour adopter des pratiques similaires à leurs concurrents capitalistes, si, parce que c'est une question de survie à un certain point. Puis c'est ce qui fait que quelque chose comme le mouvement Desjardins, par exemple, qu'on pourrait imaginer comme une incroyable et grande expérience du mouvement coopératif, etc., a, avec le temps, s'est transformé sous la pression de la concurrence des institutions financières et au nom de l'efficacité, c'est d'ailleurs restructuré, a largement dépossédé les membres d'un quelconque pouvoir sur le processus, a bureaucratisé ça, puis il y a une couche bureaucratique en haut du sommet qui est à peu près incontrôlable par les, les membres de la coopérative qui formellement auraient droit de vote puis pourraient faire quelque chose dans une économie démocratique ou dans une coopérative normalement constituée. Puis ces gens-là, même s'ils ne possèdent pas le capital de Desjardins, se comportent comme si finalement ils étaient à leur disposition dans une perspective d'efficacité, blablabla, et agissent essentiellement comme les autres banques le font. T'sais. C'est ce genre de contradiction-là aussi qui nous... mais ce genre d'expérience-là puis nous apprend aussi des choses sur comment une organisation qui est à la base d'une coopérative, si tu lui sapes son caractère démocratique, éventuellement peut finir par se comporter comme une entreprise, comme une autre. Puis ça, c'est une leçon aussi pour, dans une perspective de, si on veut bâtir une société qui est durablement démocratique, il faut bâtir des contre-tendances à ce genre de choses-là. Est-ce que vous me suivez? C'est-tu clair? Autre avantage que peut avoir ce genre de truc-là, c'est que dans la mesure où ils sont encore contrôlés finalement là, par le monde démocratiquement et compagnie, une entreprise de ce genre-là peut décider d'utiliser ses surplus ou son temps surplus ou ses ressources pour soutenir d'autres parties de la stratégie. On peut imaginer, par exemple, des grévistes qui pourraient se faire offrir du café par un café coopératif du coin, tu sais, ou encore une coopérative qui a un local qui pourrait louer à peu de frais ou donner gratuitement à une organisation pour tenir des meetings dans son coin. Ça participe à ce qu'on pourrait appeler quelque chose comme une infrastructure de la dissidence, c'est-à-dire un ensemble de réseaux de ressources locales qui sont un peu partagées, qui peuvent être prêtées, etc., qui nous renforcent. Ça fait que la présence de ces institutions-là peut nous aider puis peut être mutuellement bénéfique. Ensuite, si on regarde avec un peu le deuxième volet, on parlait des syndicats ou plus largement de l'organisation de la résistance par des mouvements sociaux, fait que c'est beaucoup plus large que les syndicats. C'est d'autres organisations plus formelles comme des associations étudiantes, ou ça peut être des groupes plus citoyens, moins organisés, mais tout de même importants, comme par exemple tous les différents groupes citoyens qui se sont organisés et qui ont lutté contre, admettons, l'extraction du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, ou toute la lutte contre GNL avec différentes organisations, ou on s'entend que toute la large partie de l'organisation des grèves climatiques, c'est faite avec des organisations plutôt hybrides, semi-formelles, dans lesquelles c'est des gens qui ont créé des organisations, qui se sont investis bénévolement pour essayer d'organiser ces mouvements sociaux-là. Ils ont tout ceci en commun, que leur stratégie principale, c'est d'utiliser le répertoire d'action collective de type manifestation, pétition, pression sur des élus, dans l'ensemble des trucs, puis là, tout ça peut aller jusqu'à la grève ou des actes de sabotage de pipeline et compagnie. Dans cette vague-là, le but, c'est que cet ensemble de mouvements-là vise à faire pression sur des décideurs, des décideuses, et vise à faire pression sur un gouvernement ou sur une entreprise ou une cible précise qu'on ne contrôle pas, mais qu'on espère, avec cette pression-là, soit bloquer un projet ou soit amener une réforme spécifique ou quelque chose qu'on veut. Dans tous les cas, dans le processus, ça agit comme un contre-pouvoir, au sens où ça prend pas le pouvoir à la place du pouvoir qui existe, là, ça prend pas contrôle de l'État, ça fait pression en espérant qu'on obtienne une partie de ce qu'on veut. Ça a comme avantage que, d'une part, tu sais, je parlais de l'apprentissage par l'expérience, tu sais. Bien, surtout des mouvements qui sont démocratiques, puis des mouvements qui sont massifs, puis qui incluent les gens, c'est des expériences importantes que les gens peuvent faire individuellement de juste la participation au mouvement, mais aussi la participation au processus décisionnel qui leur permet d'apprendre des choses. Puis aussi, dans le cadre d'une lutte politique, la confrontation avec un adversaire comme une entreprise capitaliste ou avec l'État, ça permet aussi de révéler dans le processus les limites du système, puis de faire un peu craquer finalement l'idéologie libérale dans laquelle on imagine que le système est a priori juste et comme méritoire et blablabla. Mais pour que ça survienne, ben il faut qu'effectivement les mouvements soient plutôt larges et démocratiques. Au sens où, quand tu as des organisations de mouvements sociaux qui sont très bureaucratiques, c'est-à-dire si c'est une couple de professionnels payés qui les gèrent, qui prennent des décisions, puis que ces professionnels-là payés utilisent avant tout des tactiques de communication large, c'est-à-dire, mettons, se payer de la pub dans les médias ou compagnie, ou faire deux, trois choix avec des banderoles, puis faire du lobbying auprès des politiciens. Ça peut avoir un impact dans l'opinion publique et compagnie, mais ça ne crée pas d'expérience transformatrice. Ça, c'est important parce qu'au niveau de la transformation par la pratique, finalement, cette transformation-là, elle n'a pas lieu. Elle peut avoir un effet superficiel sur, tu sais, la personne peut développer une vague de sympathie pour le mouvement environnemental en voyant les banderoles ou quelque chose du genre. Mais encore une fois, c'est relativement limité quand on sait qu'il y a le processus concret de, tu sais, d'aller chercher les liens de confiance, les discussions directes, etc., qui est nécessaire. Mais il n'y a surtout pas l'expérience pratique dont le mouvement large démocratique peut s'inspirer et peut utiliser. Es-tu clair là-dessus? Évidemment, un mouvement social large, surtout quand il commence à faire des actions perturbatrices, ça a un des avantages que ça peut affaiblir temporairement nos adversaires, ce qui peut nous aider à les faire plier sur quelque chose, ou qui peut ouvrir des brèches si la perturbation est suffisamment longue et importante. L'idée générale, c'est la grève, par exemple, mais il y a d'autres formes de perturbation qui est possible. Un des trucs que les mouvements sociaux peuvent faire aussi, c'est surtout la partie des mouvements sociaux qui est plus institutionnalisée, qu'on pense aux grands syndicats, par exemple. En principe, si comme ces grands syndicats-là étaient plus intelligents, ils pourraient utiliser leurs vastes ressources financières, notamment les énormes fonds de pension qui existent au Fonds de solidarité puis au Fonds d'action de la CSN, par exemple, pour soutenir prioritairement, par exemple, les coops ou les initiatives locales, etc., éviter que ces entreprises-là tombent trop sous la dépendance du marché, favoriser une transformation par le bas dans le processus. C'est quelque chose qui pourrait être fait. C'est un avantage d'une vision complémentaire qui pourrait se faire. Déjà, les associations étudiantes le font un peu plus. Je sais qu'entre autres, en Concordia, il y a une partie du fonds étudiant qui a été utilisée notamment pour construire des coopératives d'habitation étudiante, ce genre de choses-là. C'est le genre de choses qui se fait. Ça pourrait se faire à plus large échelle. Mais c'est une idée, juste pour vous donner une idée de comment les choses peuvent se complémenter. Ceci dit... Oui?
Mais je me rappelle, en 1970, il y avait eu, avec la Big Grand Maison, là, une usine qui avait été achetée, qui s'appelait Técofil.
Ouais.
C'était une expérience.
Oui, bien, c'est quelque chose. Les fonds de solidarité ou le fonds de la CSN pourraient, sur une façon très systématique, investir dans les usines qui se délocalisent pour s'est réapproprié par les travailleurs-travailleuses puis les transformer en usines autogérées. Ils font des fois, par exemple, avec tout le groupe Capital Média, là, ils ont transformé le groupe Capital Média en coopérative de travailleurs-travailleuses. Une coopérative de solidarité, en fait, je pense. Là, je suis plus certain. En tout cas, non pas la presse. La presse est devenue une OBNL. La presse est devenue une OBNL. Puis ils ont séparé les médias sœurs de la presse, là, Le Soleil, La Tribune, Le Droit, etc. Ils les ont séparés dans un autre groupe. Ce groupe-là a été auto-acheté par les travailleurs, travailleuses elles-mêmes, avec le soutien des fonds de Fonds d'action de la CSN et du Fonds de solidarité. Puis il opère comme une coopérative depuis. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple intéressant.
Le Devoir,
je ne sais pas ce qui se passe avec ça. Je pense que c'est encore privé.
Je
ne
sais pas.
A priori, dans votre tête, c'est encore privé. Mais anyway, dans tous les cas, mon point, c'est de dire ça peut se faire, ça devrait se faire de façon beaucoup plus systématique. Puis c'est sûr que, en tout cas, puis récemment d'ailleurs, j'ai trouvé que la couverture de ces organisations-là médiatiques contrôlées par les travailleurs-travailleuses elles-mêmes était quand même plus intéressante que ton grand journal. Oui. Donc, il y a ça. Ceci dit, c'est ça. Les mouvements sociaux, leur limite inhérente, c'est le fait qu'ils sont en processus d'opposition. Ils peuvent arracher d'un décideur quelque chose. Et ultimement, ce n'est pas le mouvement social lui-même qui est capable de l'opérationnaliser, cette chose-là qu'il a gagné, d'en déterminer les détails. Puis, le diable est souvent dans les détails. Puis, ça arrive souvent là, un mouvement social fait quelque chose, gagne quelque chose, est bien, bien content. Puis, finalement, dans les détails, comme la chose gagnée est charcutée, où il y a plein de trous, finalement, qui sont petits dedans, etc. Puis, ultimement, dans un processus de transformation sociale, puis surtout de pérennisation de ces gains-là, parce que l'autre problème, c'est à chaque fois que tu gagnes quelque chose, il n'y a rien qui dit que dans 10 ans, un autre gouvernement ne va pas réattaquer la même chose. Il va falloir que tu fasses un autre mouvement pour essayer de le défendre. Ça se peut que tu perdes cette fois-là. Ça arrive tout le temps. Ultimement, il y a la stratégie qui consiste à prendre le pouvoir d'État ou transformer l'État dans le but de d'opérationnaliser par nous-mêmes les changements qu'on veut faire, puis là, de pouvoir contrôler ces détails-là spécifiquement. Ultimement, cette étape-là est nécessaire. Il y a un bout où il faut faire ça. Puis, là, je vais faire la distinction, mettons, le parti comme réformiste qui prend le pouvoir versus comme le parti révolutionnaire. En dehors d'un moment de rupture, par exemple, ce ne serait pas une mauvaise chose qu'un parti réformiste prenne le pouvoir dans la mesure où les réformes qu'il apporte sont entre autres capables de renforcer les autres pôles. C'est-à-dire, si un parti, admettons Québec solidaire demain prend le pouvoir, moi je pense pas que Québec solidaire est un parti révolutionnaire, au sens où Québec solidaire, de ses propres bases, avec son programme, puis de sa composition, etc., va pas commencer à socialiser les grands pans de l'économie, puis les mettre sous contrôle démocratique, etc. Il risque de faire des réformes à court terme, essayer de les aménager et compagnie. Ceci dit, admettons qu'il fait des réformes qui permettent de favoriser l'émergence de coopératives et compagnies, de favoriser le financement et l'organisation des mouvements sociaux, etc. C'est des réformes structurantes qui peuvent favoriser nos chances à long terme, par la suite, de bâtir les mouvements plus forts qui, par la suite, vont peut-être favoriser l'émergence d'un autre parti ou la radicalisation Québec solidaire. Ou, en tout cas, il y a plein de possibilités de ce qui peut se passer par la suite, dans lequel, éventuellement, tu as un changement de système qui peut survenir. Il faut juste voir ce processus-là comme un processus complémentaire. Oui?
Un contre-exemple, c'est le Parti québécois. Le Parti québécois, sa charte, c'est qu'il voulait faire l'indépendance, mais il a fait un bon gouvernement, puis finalement, l'indépendance n'est jamais arrivée. Fait que, je sais pas, là.
Bien, ultimement, parce qu'il y a deux choses. Puis là, une des limites des stratégies de, justement, mettons, élection ou prise de pouvoir d'État, c'est que le fait d'élire un gouvernement ne te garantit pas que les raisons pour lesquelles il a été élu, puis les raisons pour lesquelles il pense qu'il a été élu, vont réussir à s'appliquer par la suite. Parce que élire un gouvernement, ça ne te donne pas automatiquement contrôle d'une part de l'ensemble de l'appareil d'État, parce que l'appareil d'État est relativement large et a des sédiments de bureaucratie dont plusieurs comme, t'sais, ont une façon de faire, sont attachés à ces façons de faire-là, puis vont défendre leur statu quo, etc. Puis aussi que l'État évolue dans le marché capitaliste. Puis on en a parlé au départ, là, on parlait de géopolitique. Là, qu'est-ce qui arrive si au Québec, on essaie de faire la révolution tout seul? Ben, dans le même processus, admettons, Québec solidaire arrive au pouvoir demain matin, puis essaye de faire des réformes radicales en termes de fiscalité, de contrôle des entreprises, etc. Ben, veux pas, la classe capitaliste, elle va répondre parce qu'elle va se sentir attaquée sur ses acquis, même si c'est pas un processus révolutionnaire, même si c'est juste un processus réformiste qui met des limites importantes à l'accumulation du capital. Elle va répondre, puis elle va essayer d'isoler le Québec sur la scène internationale, elle va essayer d'isoler le gouvernement de Québec solidaire au niveau local, en utilisant, entre autres, l'ensemble de sa machine médiatique pour démoniser ce qui est en train de se faire et compagnie. Tu sais, on pense juste à quand le PQ a été élu en 2012 puis qu'il était minoritaire. Là. Le PQ, c'était pas un gouvernement tant réformiste, tant autre que ça, mais il y avait des choses comme, admettons, il voulait réinstaurer la taxe sur le capital. Je me souviens plus c'était à quel pourcentage, mais en tout cas, puis il avait voulu le faire rétroactivement. Puis là, toute la droite est allée pleurer dans les médias, puis c'était donc bien terrible, etc., puis ils ont reculé. Puis, dans le processus, ce qu'il faut réfléchir, c'est ça, c'est qu'une fois que le gouvernement est en place, quand il essaie de faire des affaires, la guerre du rapport de force dans la société n'est pas terminée. Puis si tu n'as pas un mouvement social solide, capable de pousser le gouvernement en dire « là, tu vas pas reculer, tiens, ce que tu as promis de cette affaire-là, tu vas le faire », puis capable de faire contrepoids à notamment le fait que la classe capitaliste va résister. Si tu n'as pas ça, bien éventuellement, le gouvernement, relativement isolé, il risque de faire comme « OK, on s'excuse, vous ne pouvez pas déranger les investisseurs. » Puis c'est ça. Fait que donc, il y a des limites dans la capacité d'un gouvernement à imposer finalement là, des réformes juste avec l'appareil d'État. Cet appareil-là d'État existe dans un marché plus large, dans un contexte plus large. Puis un gouvernement de ce genre-là, s'il veut arriver à bout, a besoin, entre autres, de mouvements sociaux dynamiques puis puissants. Puis admettons qu'il veut commencer à essayer de démocratiser l'économie en versant avec des portions de l'économie. Là. Je sais pas moi. On veut commencer à ouvrir une filière. On veut construire, on veut prioriser la création de coopératives de construction de trains québécois, blablabla, pour développer notre infrastructure. Mais s'il n'y a pas comme, t'sais, du monde prêt à runner des coopératives d'ingénierie, ben, il va être un peu dans le vide. T'sais. Fait qu'il a besoin de s'appuyer sur des infrastructures déjà partiellement existantes sur lesquelles il va pouvoir construire. Sinon, comme, il va pédaler dans le vide puis il ne réussira pas à appliquer son programme.
C'est que 3,5% de la population, c'est 280 000 habitants. Donc, ça fait quand même du monde. Donc, si on part du principe que c'est un groupe qui est très actif, enfin, d'agitation de rue, ou plutôt de ruelle aussi, donc ça vient à la plus que vous dites là. C'est-à-dire que s'il y a une pression constante de la base, sur cette base-là, c'est vrai que 3,5%, ça paraît peu en pourcentage, mais en chiffre réel, ça fait beaucoup. Ça, c'est une chose. Alors, l'autre chose, la question, c'est que dans le domaine des partis et puis de l'écologie, comment vous analysez le fait que dans un pays comme le Canada, qui s'affiche comme étant écologique, mais qui n'est pas, on ait un parti écologique qui ne représente que 3% des électeurs, en tenant compte du fait des problèmes qu'il y a eu en interne, le parti n'est pas ouvert, alors qu'en Allemagne, ils sont régulièrement plus de 20%, et que c'est un parti qui compte, c'est pas, je ne sais pas, les 20%. Ici, ça serait considéré comme ça compte pas 20%. En Allemagne, ça compte. Donc, il y a une espèce de paradoxe canadien, là, qui mériterait quand même une réflexion.
Mais juste sur, tu sais, d'une part, quand on compare, mettons, des résultats électoraux au Québec versus en Allemagne, ou au Canada versus en Allemagne, un des enjeux, c'est que là-bas, ils ont un scrutin proportionnel parmi puis, ça permet, en fait, un scrutin proportionnel, ça permet à des petites initiatives d'être représentées plus rapidement, puis de croître plus rapidement, puis il y a beaucoup moins de politique du moins pire, tu sais. Parce que dans un scrutin uninominal à un tour, voter pour le Parti vert, tu perds ton vote, fait que tu votes jamais pour, même si t'aimerais qu'il soit élu. Finalement, les seuls qui votent pour, c'est les gens les plus convaincus, mais ça représente pas, tu sais, qui préférerait vraiment avoir un gouvernement vert. Mais à court terme, il y a un problème d'action collective, là, au sens où, tu sais, tant que tu votes pas pour, ben, tu sais pas que ton voisin voterait pour aussi. Fait que là, tu dis, ben, finalement, on va voter pour le Parti libéral, parce que il y a quand même Stephen Guilbeault dedans. Hein, c'est mieux que les conservateurs. Puis de toute façon, dans mon comté, c'est ça. Là, le NPD n'est pas vraiment là. Moi, j'aime pas le Bloc. Puis c'est ça, mon vote est libéral.
C'est quand même qu'il y ait, à force de réfléchir, les gens réfléchissent beaucoup, puis après, c'est décevant. C'est bien une espèce de calcul. Pourquoi vous
ne
votez pas pour une réforme du scrutin?
En 2015, Trudeau. Mais c'est ça. En fait, on n'a pas de référendum d'initiative populaire, donc on ne peut pas l'imposer à un gouvernement. Puis tous les gouvernements, tu sais, la CAQ a proposé une réforme du scrutin, il ne va pas le faire. De toute façon, ce qu'il avait comme idée de le faire, finalement, quand il aurait dit qu'il voulait le faire, c'était de l'hostie de merde.
Oui, mais
je
vous pour ça aussi.
Oui, c'est ça. Il y a une organisation qui existe qui essaie de le faire. C'est pas un combat facile.
Dans vos 3,5%, je veux dire, si vous faites une agitation de rue par rapport à ça, puis pas sur des augmentations de salaire, finalement, ça me paraît logique. Je ne sais pas pourquoi vous lâchez le morceau là-dessus.
En tout cas, dans tous les cas,
moi, je sais pas.
Annotons que je fais un genre de wrap-up. Le point dans tout ça, c'est que militer dans un parti politique dans l'espoir qu'il gagne les élections, c'est vraiment beaucoup de temps. Puis généralement, les gens qui font ça, surtout quand tu le fais à temps plein, ben t'as pas le temps d'organiser tant que ça les manifs, ce genre de choses-là. Être impliqué dans le mouvement écolo, puis comme lutter dans ton coin pour que le pipeline n'y passe pas, ça prend vraiment beaucoup de temps en général. Puis t'as pas le temps de, tu sais, partir comme ton épicerie coopérative avec des gens bénévoles et compagnie, tu sais. Puis la personne qui essaie de partir son café coop écolo, ben elle passe 70 heures par semaine dans son café coop, puis elle n'a pas le temps de faire tant des autres affaires. Ultimement, tu sais, personnellement, on fait des choix, puis c'est une bonne chose de réfléchir à ces différents choix-là de façon relativement complémentaire. Il faut une forme de coordination dans le processus avant qu'on soit chaotique. Puis tranquillement, au fur et à mesure qu'un mouvement se développe, il se bâtit ses tables de concertation, ses tables stratégiques, etc., dans lesquelles les gens se parlent. Mais dans le processus, une des meilleures façons, finalement, de se coordonner, c'est d'être relativement solidaire de ce que les autres groupes font, de les appuyer, puis de se concentrer sur nous, tu sais, faire le meilleur de ce qu'on est capable de faire. Puis en faisant ça, bien, on développe là où on est du pouvoir collectif à travers nos initiatives. On appuie les autres qui développent du pouvoir collectif là où ils sont. On discute, on mature, on apprend des affaires dans le processus. Puis, même si un horizon de transformation sociale large peut nous sembler lointain à la base, à chaque chose qu'on réussit à faire, à chaque fois qu'on réussit à être un peu plus fort, qu'on réussit à avoir des victoires, même les réformes qu'on gagne retardent un petit peu la catastrophe, si on veut. Toutes les petites choses qu'on est capable de gagner améliorent quand même un peu la situation. Puis, dans la mesure où c'est le mieux qu'on peut faire en ce moment, bien, c'est ça qu'on fait. Puis, dans la mesure où on choisit des luttes qui nous renforcent par la suite, c'est-à-dire qu'on prend une lutte, on la mène jusqu'au bout, puis après ça, on est un petit peu plus fort, puis on recommence, bien, on bâtit des conditions de possibilité dans lesquelles, éventuellement, peut-être qu'on va atteindre notre 3,5%, puis là, on va être en mesure de faire le genre de changement structurel majeur qu'on veut faire. On ne sait pas où est-ce que la conjoncture elle nous mène. T'sais, on se garde notre flexibilité stratégique, finalement. On regarde les opportunités, on essaie de voir où est-ce que c'est le mieux qu'on investisse notre temps. Puis quand des opportunités stratégiques ou des conjonctures ou des crises surviennent, ben là, on essaie d'être le plus fort possible et le plus stratégique possible à ce moment-là pour en profiter, pour être en meilleure posture par la suite, puis continuer comme ça. Puis comme cette façon-là de voir les choses, ben, nous permet d'une part de réaliser que chacun d'entre nous ne sera pas le grand leader de la révolution. T'sais, on va chacun mettre notre grain de sel, on va faire notre processus. Puis ces contributions-là, ils s'additionnent, puis ils sont complémentaires, puis ils permettent de travailler ultimement là où on veut. Ceci dit, il y a des limites dans lesquelles il y a des choses qu'il faut réaliser, ou il y a des formes d'action qui nous aident, puis il y a des formes d'action qui peuvent nous nuire. Puis dans ce processus-là, c'est là que je disais, c'est un moton. Quand on fait des choses collectives, démocratiques, qu'on permet aux gens de s'impliquer, de développer leur expérience, etc., si on priorise des formes plus de lobby, si on priorise des formes plus professionnalisantes, qui utilisent plus des techniques de communication versus de la mobilisation ensemble, bien là, on renforce moins on participe moins à la transformation de conscience collective. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Fait qu'il y a des formes de lutte qui le permettent. Puis, même chose, quand on commence... Si on commence à s'associer à des institutions de la classe capitaliste dans l'espoir d'accéder à leurs ressources, ben on crée un lien de dépendance qui mine à moyen terme notre capacité d'action aussi. Fait qu'il faut faire attention à ça. Des fois, il y a des formes de subvention des affaires qui n'ont pas trop de liens attachés, qu'on peut se dire « OK, c'est pas trop grave ». T'sais. Mais idéalement, plus on développe notre capacité d'action collective autonome, plus qu'on a la marge de manœuvre qu'on a besoin par la suite pour pousser plus loin les affaires. Parce que, éventuellement, quand tu es trop lié, soit par des subventions de l'État ou des qui sont conditionnelles ou à des organismes. Des fois, il y a des gros organismes de charité qui mettent des conditions puis qui mettent des trucs. Quand tu es trop lié à ces affaires-là, éventuellement, tu vas dire des affaires puis là, on va te dire, ah ben, tu peux pas aller là, sinon tu vas perdre ta subvention puis là, tu capotes. Puis là, ça limite finalement le pouvoir collectif que tu as réussi à développer dans le processus. Être capable de développer des institutions sur une base autonome de la classe capitaliste et des institutions qu'elle contrôle ou qui lui permettent de donner des conditions, puis être capable d'organiser de se baser sur des organisations qui peuvent rentrer à l'occasion en confrontation plus directe avec le système. Quand je parle de confrontation plus directe, c'est pas nécessairement violent, mais tiens, mettons, une grève, c'est une confrontation relativement directe, tu sais. Puis là, je vous donne un exemple. Tiens, mettons, dans une institution scolaire, des gens qui se seraient organisés dans un genre de conseil de vie étudiant rené par l'administration auraient probablement pas eu l'autorisation d'organiser une grève dans leur campus. Mais des gens qui se sont organisés dans une association étudiante dont la légitimité venait d'une assemblée d'étudiants, eux, ils peuvent le faire, puis l'administration n'a rien à dire, tu sais. Puis là, c'est au moment où ils disent « on organise une grève », que là, ils organisent un moment de confrontation, puis là, ils n'ont pas de lien attaché à l'administration, ils peuvent le faire, il n'y a pas de problème. T'sais. C'est un exemple simple pour illustrer un peu ce que je veux dire. Fait que c'est pas mal ça. Ça clarait mon... mon truc.
Il est 9h15. Bon. Écoutez, merci infiniment d'avoir été là à un, deux ou trois de ces séances sur ce cours de comment faire une, pour une écologie du 99%. On remercie beaucoup les oubliés de nous avoir reçus, hein, parce que normalement, ici, c'est fermé à ces heures-là, donc ils ouvrent juste pour nous. On va faire d'autres cours avec eux, j'en suis sûr. Vous allez revenir, on va être contents. Ça va être super. Suivez-nous, il reste des cours encore à l'époque qui apparaissent dans la session, parce que c'est une session un peu spéciale, hein, on n'a pas pu la préparer d'avance, parce qu'on ne savait pas trop ça allait être quoi les consignes, etc. Donc, il y a des cours qui apparaissent, il y a des cours qui sont encore là. Allez sur notre site www.upopmontréal.com si vous voulez voir ce qui se passe. Et puis sinon, le livre est là, la canisse pour vos millions de dollars est là, la feuille pour votre mail est là, et Alain est là, si vous voulez l'attraper avant qu'il parte. Merci beaucoup, bonne soirée.